Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du lundi 28 mai 2018, déjà la fin mai. Bonjour, Jean-Sébastien. Les mois passent vite, n'est-ce pas?
Les mois passent très vite.
Ah, oui.
Avec l'arrivée du beau temps, les journées passent encore plus vite.
Oui. Aujourd'hui, c'est beau, mais pas chaud ou pas beau.
Un mélange de
frais.
Grisaille, mais, oui. Mais le beau temps, la chaleur s'en vient.
Ah oui, ça c'est sûr. On a eu quand même quelques belles journées qui nous ont donné espoir que l'été était à l'horizon.
Et selon une estimation... rapide.
Oui.
Apparemment que l'été va être plus chaud.
J'ai lu ça dans le journal de Montréal. Je vais en parler un petit peu plus tard.
Ah ben, je vous laisse ce scoop alors.
non, mais vous l'avez déjà mentionné, mais je vais vous donner un peu plus de détails. Alors, je vous écoute dans vos éphémérides.
Pour les éphémérides, dans ce 28 mai, tout d'abord, on commence en 1830 aux États-Unis, signature de l'Indian Removal Act, qui ordonne la déportation des Amérindiens à l'ouest du Mississippi. Donc, c'est en lien un petit peu avec les sujets actuels dans plusieurs pays. On ne veut pas de nouveaux arrivants, on veut qu'ils repartent. Mais à cette époque-là, ben, on tassait ceux qui étaient déjà là.
Bon.
1845, grand incendie du quartier Saint-Roch à Québec. 1934, les sœurs Dionne, de leur prénom Annette, Yvonne, Cécile, Émilie et Marie, les jumelles Dionne, les quintuplées Dionne, les premières quintuplées connues qui ont survécu à une naissance. C'était donc en 1934. Les avancées en médecine n'étaient pas aussi... les avancées n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui, on pourrait le dire ainsi.
Pléonasme vicieux, mais on comprend bien ce que vous voulez dire.
Et à noter également que leur mère, Oliva Dionne, vivait dans le nord de l'Ontario et n'avait que 26 ans, mais déjà 6 enfants. Donc, à cette septième portée, 11 enfants, tout de même.
Donc, impressionnant.
Impressionnant, courageux.
Oui, 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 surtout.
1937, fondation de la compagnie Volkswagen. 1949, l'acteur et dramaturge Gratien Gélinas est honoré à Québec à la 201e représentation de Tikok. 1987, alors parti de la Finlande, l'Allemand Matthias Rust, 19 ans, pilote un Cessna au-dessus de la Russie et le pose sur la place Rouge à Moscou, déjouant la surveillance aérienne de Moscou. Donc, plus de 600 km à voler sous le radar. 1995, Jacques Villeneuve remporte les 500 000 d'Indianapolis. Et 1998, encore un 28 mai, le Pakistan devient officiellement la 7e puissance nucléaire mondiale. Naissance en ce 28 mai du romancier Ian Fleming, le père de James Bond, né en 1908. Également décès en 1972 du duc de Windsor, qui avait abdiqué comme roi d'Angleterre. En 2009, décès de l'animateur, réalisateur et comédien canadien Marcel Béliveau, dont on se rappelle notamment Surprise, Surprise.
Oui, évidemment.
En 2011, Alice Robbie, la chanteuse québécoise. Et en 2014, la poétesse afro-américaine Maya Angelou.
C'est tout.
C'est déjà tout.
Un grand merci. À la une de la presse, exclusif, Bell et Evenco s'offrent Juste pour rire. Elles hériteront de 51% des actions du groupe Juste pour rire. Récemment acquis par une firme américaine, l'Empire de l'humour pourra ainsi bénéficier d'alléchants crédits d'impôt. Vers les élections provinciales, la CAQ se recentre, le PQ à gauche toute. C'est une analyse de Denis Lessard. Qui a tué Diane Thibault? Le mystère plane depuis plus de 40 ans. Vers la Coupe Stanley, la presse à Las Vegas, une ville folle de ses Golden Knights. La CAQ se recentre, le PQ à gauche toute, les plaques tectoniques bougent lentement, mais quand ces glissements arrivent simultanément, ils sont plus faciles à apprécier. C'est ce qui s'est produit politiquement en fin de semaine. À 127 jours des élections, la coalition Avenir Québec et le Parti québécois se sont tassés sur la gauche. Résultat net, le parti de François Legault se rapproche du centre, tandis que celui de Lisée marche sur les plates-bandes de Québec solidaire, c'est une analyse de Denis Lessard. Hier, à la clôture du congrès de son parti à Lévis, François Legault a clairement indiqué qu'il ne prônerait pas de nouvelles baisses d'impôts. Le credo habituel de la CAQ, parti qui incarnait le courant de droite depuis sa fondation. Hier, son discours aux 800 militants promettait surtout des services pour les élèves, les aînés et les familles. Tous les enfants auront accès à la maternelle à 4 ans. Bien sûr, les réflexes sont toujours présents. On déchira l'entente avec les médecins spécialistes pour récupérer 1 milliard de dollars et on fera le ménage dans des contrats d'informatique, une économie de 800 millions. Mais l'ensemble du discours était clairement social. Touche personnelle, Legault a martelé que jamais il ne pardonnerait à Philippe Couillard d'avoir sabré l'aide aux élèves en difficulté d'apprentissage, un problème auquel il a déjà fait face. Un chef du PLQ n'aurait pas désavoué cette manœuvre. Legault a fait un appel pressant à la communauté anglophone. Maintenant que la souveraineté n'est plus un enjeu, une première en 50 ans. Libérez-vous, joignez-vous à l'équipe du changement, a-t-il lancé en anglais. Une nouvelle tentative pour mettre le pied dans l'île de Montréal, dégeler le vote anglophone. Les circonscriptions ne changent guère d'allégeance à Montréal, seulement deux. Saint-Henri, Sainte-Anne et Crémazie, Maurice Richard, avaient changé de couleur en avril 2014. On ne dit pas Saint-Henri, mais Saint-Henri plutôt. À l'inverse, à Drummondville, devant 500 militants, Jean-François Lisée s'est engagé à ce que le PQ, une fois élu, avance vers la gratuité scolaire totale, même au collégial et à l'université. La plateforme électorale de son parti, 48 pages d'engagement, est déposée dès maintenant à 4 mois des élections. Assommé par la perte de 4 élections complémentaires, Jean Charest avait fait la même chose et devancé la publication de son programme à l'automne 2002. Le PQ promet aussi le nivellement pour tous des frais de garde sans égard aux revenus. Le syndicaliste Marc Laviolette a fait adopter une résolution qui rendrait impossible la réédition des lock-outs survenus au Journal de Montréal et au Journal de Québec. L'obsession de Lisée pour le plan d'action de Québec solidaire ainsi que l'influence de Jean-Martin Hossan sont palpables. La CAQ n'a pas soufflé mot des questions identitaires et le PQ a ramené sa proposition qui interdit le port des signes religieux pour les employés de l'État en situation d'autorité, les enseignants et les employés de CPE. Policiers, pompiers, l'administration Plante impose le principe de transparence à ses corps de police et de pompiers en l'inscrivant noir sur blanc dans ses règlements. Le service de police de la Ville de Montréal et le service de sécurité incendie de Montréal seront désormais tenus de se présenter au moins 10 fois par an devant élus et citoyens pour répondre publiquement aux questions. Il faut cesser de balayer les sujets controversés et difficiles sous le tapis, estime Alex Norris, président de la Commission de la sécurité publique. Déjà depuis le début de l'année, l'élu a multiplié les séances publiques, mais celui-ci dit vouloir aller plus loin, en enchâssant ce principe de transparence en toutes lettres dans les règlements municipaux. Lors de la séance du conseil municipal d'aujourd'hui, les élus montréalais seront ainsi appelés à voter des changements aux règles de fonctionnement des commissions, première révision en 10 ans. Principal changement, Montréal introduira la notion de discussion publique, qui permettra désormais aux citoyens de profiter des séances pour poser toutes les questions touchant à la sécurité publique et non pas strictement sur le sujet du jour. Alex Norris espère ainsi mettre à mal la culture du secret qui existe depuis longtemps au sein du corps policier et chez les pompiers. Plusieurs centaines de personnes ont participé hier à une manifestation contre le controversé projet d'oléoduc de Kinder Morgan Trans Mountain au quartier des spectacles à Montréal. Aux dernières élections, Justin Trudeau avait promis d'agir comme un bon père de famille pour tous les Canadiens et pour la planète. Prouve-le, a lancé l'acteur Emmanuel Bilodeau sous les applaudissements nourris de la foule rassemblée sous un ciel pluvieux. L'auteur et metteur en scène Dominique Champagne a rappelé que 15 000 scientifiques de partout dans le monde ont dit l'automne dernier que pour que le climat ne se dérègle pas davantage, il fallait laisser dans le sol 80 % des ressources connues d'hydrocarbures. Ce qui est absurde, c'est de continuer de pelleter du carbone dans le ciel, comme on le fait, a-t-il dit. Rassemblement du Bloc québécois dénonçant des attaques sexistes de toutes parts et le coup d'État fomenté par la vieille garde du Bloc québécois. Une centaine de militants se sont rassemblés hier à Montréal pour témoigner leur appui à la chef Martine Ouellette, qui fera face à un vote de confiance dans une semaine. De nombreux sympathisants, dont les députés Xavier Barcelot-Duval et Marilyn Gill, ont défilé sur une scène du Monument national pour témoigner leur appui à la chef du Bloc québécois. Martine Ouellette a également pris la parole à la fin de l'événement pour défendre sa vision des choses. Les employés d'entretien de la Société de transport de Montréal ont voté hier dans une proportion de 98 % pour un mandat de grève illimité qui pourrait être appliqué à une date ultérieure si jugé nécessaire. Il y a deux semaines, les 2400 membres du syndicat des employés d'entretien avaient annoncé le début d'une grève des heures supplémentaires de 6 jours. Les effets de la grève des heures supplémentaires ne se font pas sentir immédiatement. C'est plus à long terme, a précisé Gleason Frenette, président du syndicat du transport de Montréal. Le cœur du problème concerne les heures supplémentaires et la privatisation de certaines activités actuellement réalisées à l'interne, note le syndicat. Mamoudou Gassama, un Malien sans papier salué en héros en France après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide, aura sa situation régularisée avant d'être naturalisé français. Lui a annoncé le président Emmanuel Macron lors d'un entretien à l'Élysée. Tous les papiers vont être régularisés, a assuré le chef de l'État lors d'un échange diffusé sur sa page Facebook avec le jeune homme de 22 ans. En jeans et chemise blanche à manches courtes, Mamoudou Gassama a parlé pendant quelques minutes avec M. Macron devant les caméras avant que l'entretien ne se poursuive en tête-à-tête. Son acte spontané, filmé samedi, a été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. En quelques secondes, il a escaladé la façade d'un immeuble parisien pour sauver un enfant de 4 ans, suspendu à une balustrade du 4e étage. Extrême droite d'un côté, ses détracteurs de l'autre, Berlin a connu un dimanche de tensions, des milliers de manifestants des deux camps s'étant mobilisés pour un face-à-face sous l'œil de la police présente en nombre pour prévenir des heurts. Tout l'après-midi, en plein centre-ville, plus de 5000 manifestants de l'Alternative pour l'Allemagne ont marché, drapeau allemand à la main, face aux quelques 25 000 personnes réunies pour de bruyantes contre-manifestations selon les estimations de la police. Défilant de la gare principale jusqu'à la porte de Brandebourg, les manifestants d'extrême droite ont repris en chœur des slogans hostiles à l'islam et à la chancelière Angela Merkel en raison de sa décision en 2015 d'accueillir des centaines de milliers de demandeurs d'asile. En fin d'après-midi, se sont dispersés dans le calme, encadrés de près par les policiers qui craignaient des heurts, des groupes se disant antifascistes, ayant promis sabotage et chaos.
Repart encore pour quelques kilomètres. Comme
Récent extrait de Catherine Durand. La pièce s'intitule « Le temps presse ».
En une du devoir de ce 28 mai 2018, François Legault et Jean-François Lisée en photo, le chef de la CAQ et le chef du PQ. La CAQ et le PQ se disputent le thème du changement. L'Italie à l'aube d'une nouvelle crise politique, le départ du chef du gouvernement désigné replonge le pays dans l'incertitude. Patrimoine, la maison natale de Jacques Ferron en vente. Rencontre du troisième type au FTA, le Festival Transamérique, Gurshad Shahiman, les spectateurs et les rituels théâtraux. Régime volontaire d'épargne retraite, un bilan, point de suspension et des questions. Kim et Trump, une chronique de François Brousseau. 1995, une chronique de Jean-François Nadeau. Et covoiturage, 15 millions de places disponibles dans les voitures chaque jour. L'écran était gigantesque et l'autobus de campagne a roulé jusqu'à l'intérieur du centre de congrès et d'exposition de Lévis dimanche pour qu'en descende l'équipe de la coalition Avenir Québec. La formation politique n'entend lésiner sur aucun moyen, sauf peut-être les jours de vacances, pour convaincre les Québécois de lui donner le mandat de faire mieux au lendemain du scrutin d'octobre. Libérez-vous, rejoignez l'équipe du changement, a lancé en anglais le chef caquiste François Legault en pleine possession de ses moyens, devant les 800 militants réunis en Conseil national pour la fin de semaine. À des kilomètres de là, à Drummondville, les militants du Parti québécois, rassemblés pour adopter leur plateforme électorale, ont dit garder un moral solide. En dépit de l'enlisement de leur formation politique au troisième rang des intentions de vote, 22 % derrière la CAQ, 35 % et le PLQ, 26 % ils se sont dit persuadés que leurs appuis gonfleront grâce à une solide performance de leur chef, Jean-François Lisée, lors des moments forts de la campagne électorale, à commencer par les débats des chefs. Le parti de François Legault a fait peu de cas des attaques du PQ, préférant s'affairer à expliquer le changement que la CAQ propose, non sans lancer quelques pointes aux troupes de Philippe Couillard. Les gens ont perdu confiance avec raison, suite à des promesses non tenues par les politiciens, a déclaré le chef caquiste en montrant du doigt les engagements brisés des libéraux sur l'augmentation des taxes scolaires, des tarifs d'électricité et des frais de garde. Je vais travailler très fort à convaincre les Québécois que c'est possible de faire mieux et de faire plus, a-t-il martelé. Jean-Sébastien, nous en parlons en début d'émission de cet été chaud prévu pour le Canada. Si le printemps a tardé à se mettre en branle, il semble qu'un été légèrement plus chaud que celui de l'an dernier soit aux portes de la plupart des régions du pays, a indiqué le météorologue principal du Weather Network, le pendant anglophone de Météo Média. Au Québec et en Ontario, la première portion de l'été devrait être plus chaude que la seconde et l'automne pourrait arriver plus tôt que prévu, selon Chris Scott. Ces provinces devraient d'ailleurs connaître des épisodes de violents orages. M. Scott prédit que deux régions ne seront pas touchées par ce réchauffement, la baie d'Hudson ou la baie d'Hudson, où il devrait faire plus froid que l'an dernier, et le Manitoba, où les températures seront similaires. Depuis le début de la saison, le 10 avril, l'utilisation des vélos Bixi à Montréal est en hausse de 35 % comparativement à la même période l'an dernier. L'année 2017 a été record pour ce service de vélo partage alors que 4,8 millions de déplacements ont été effectués. Il s'agissait d'une augmentation de 25 % par rapport à 2016. Selon Pierre Parent, directeur marketing, communication et partenariat de Bixi, on peut espérer atteindre le plateau des 5 millions cette année. Quelques 6 250 vélos répartis dans 540 stations sont disponibles cette saison. Par ailleurs, pour une troisième année d'affilée, le dernier dimanche de chaque mois jusqu'en octobre, les Montréalais pourront se promener dans la ville sans frais. Ça a déjà commencé hier. Le Brésil était toujours en proie à de graves problèmes d'approvisionnement dimanche, au septième jour d'une grève des transporteurs routiers contre la hausse du prix du diesel, même si le gouvernement assurait que le pays était en voie de normalisation. Pour tenter de limiter les dégâts, les autorités ont commencé dès vendredi à escorter des camions-citernes pour qu'ils aient accès aux raffineries, après que le président Michel Temer a autorisé l'emploi des forces de sécurité, y compris l'armée, pour débloquer les routes. D'après le dernier bilan de la police routière fédérale, 586 barrages routiers partiels étaient toujours en place à travers le pays samedi soir. Pratiquement toutes les stations-service restaient à sec sur l'ensemble du territoire et les produits frais se font de plus en plus rares sur les étals. « Nous allons vers une normalisation de la situation », a pourtant soutenu samedi le ministre de la Sécurité institutionnelle, Sergio Etchegoyen, tout en reconnaissant que ce n'est pas rapide. Les commémorations de Tiananmen commencent à Hong Kong. Des centaines de personnes ont manifesté dimanche à Hong Kong avant la commémoration du massacre de la place Tiananmen à Pékin il y a 29 ans, réclamant la libération de Liu Xia, veuve du prix Nobel Liu Xiaobo. Le territoire semi-autonome de Hong Kong est le seul endroit de Chine où cette commémoration est ouvertement marquée, avec chaque année, par une veillée le 4 juin dans Victoria Park, précédée d'une marche. La participation à ces manifestations recule toutefois depuis quelques années. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rendra en Allemagne et en France du 4 au 6 juin, a indiqué dimanche son bureau dans un communiqué. Aucun détail n'a été donné sur son programme. Le premier ministre français Édouard Philippe avait annulé le 23 mai un déplacement en Israël et dans les territoires palestiniens prévus les 31 mai et le 1er juin, invoquant des raisons d'agenda intérieur liées au travail gouvernemental. M. Philippe devait notamment inaugurer aux côtés de M. Netanyahou le 1er juin à Jérusalem la saison croisée France-Israël, une manifestation destinée à stimuler les relations culturelles et scientifiques entre les deux pays. M. Netanyahou s'était entretenu le 16 mai au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel selon son bureau. Ces discussions avaient eu lieu deux jours après l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. La France et l'Allemagne ont leur ambassade à Tel Aviv. Beau temps, mauvais temps, il y aurait dans la seule région de Montréal près de 15 millions de places disponibles dans les voitures chaque jour. À l'échelle des cinq plus grandes agglomérations du Québec, on parle de plus de 25 millions de places vides selon les données des dernières enquêtes origine-destination réalisées en 2011 et en 2013. En effet, la majorité des automobilistes préfèrent de loin effectuer leur trajet quotidien en solo. Pour mieux comprendre les réticences qui existent envers le covoiturage en milieu urbain, un regroupement d'entreprises privées qui offrent ce genre de services et d'organismes environnementaux lancera une enquête inédite sur le sujet le 1er juin prochain à Prix Le Devoir. Leur objectif, cerner les motivations des Québécois en matière de transport et mettre le doigt sur ce qui leur manque pour qu'ils acceptent de partager l'habitacle de leur véhicule lors de leur trajet quotidien. Depuis l'automne dernier, la Société de transport parisienne Île-de-France Mobilité s'est associée aux différentes entreprises de covoiturage présentes sur son territoire afin d'encourager davantage d'automobilistes à faire ce choix de transport pour se rendre au travail. En plus d'être accompagnée d'une compensation financière tant pour les entreprises offrant ce genre de service que pour leurs utilisateurs, cette collaboration a permis le lancement d'une interface intégrant l'ensemble des options de transport durable, y compris le covoiturage. S'inspirer de Paris? On verra bien. Reste avec nous, l'émission se poursuit avec la revue de presse du Journal de Montréal.
La Grenade, Clara Luciani sur Canal M.
À la une du Journal de Montréal, grosse photo de Luc Picard dans la peau d'un tueur. L'acteur interprétera Gérald Galland, le pire tueur à gages de l'histoire du Québec, dans un film qui sera tiré du livre Galland, Confession d'un tueur à gages, publié aux éditions du Journal. Des dizaines d'investisseurs perdent gros un projet minier trop beau pour être vrai. Transport Québec fait la sourde oreille, des routes mortelles encore aussi dangereuses malgré les recommandations des coronaires. Si le ministère des Transports dit prendre au sérieux les recommandations faites par les coronaires, l'enquête du journal démontre que ces belles paroles ne se reflètent pas sur le terrain, là où des automobilistes sont morts pour rien. Le journal a analysé quelques 1300 rapports de coronaires au cours des derniers mois pour vérifier quel suivi a été fait. Des recommandations émises. Résultat, plus de 50 % de ces propositions restent lettres mortes des années plus tard. Au ministère des Transports, on affirme avoir fait des travaux reliés à certaines recommandations provenant du bureau du coroner. Or, après vérification sur le terrain, il n'en est souvent rien, même 5 ans plus tard. Ils veulent retracer celui qui leur a sauvé la vie. Un camelot a sorti de leur lit des familles d'un immeuble en flammes. 6 familles de 2 montagnes qui ont été jetées à la rue par un violent incendie hier veulent retrouver le livreur du journal local car elles estiment qu'il leur a sauvé la vie. Pouvez-vous retrouver le livreur de journaux qui nous a sauvé la vie ce matin, s'il vous plaît? Demandait avec insistance Myriam Boutin hier matin. Malgré les pertes qu'elle a subies, elle et les autres sinistrés n'en avaient que pour le camelot. Les flammes ont pris naissance vers 7 heures dans la toiture d'un immeuble de 6 logements de la rue Florian-David. C'est le livreur du journal L'Éveil qui, apercevant la fumée sortir de la toiture, a cogné à toutes les portes de l'immeuble à logement afin de réveiller tout le monde. Selon des témoins, il était particulièrement insistant et il criait en demandant aux locataires de sortir. Carrel Lapointe, une voisine vivant en face de l'immeuble, croyait qu'il s'agissait d'une dispute de couple ou de voisins en raison des cris. C'est lorsqu'elle a regardé dehors qu'elle a compris que la situation était plus grave. Les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes vers 9 heures, mais ils ont tout de même dû lutter contre l'incendie jusqu'à midi. En après-midi, les sinistrés s'affairaient à récupérer ce qu'ils pouvaient au milieu des décombres. Certains locataires n'avaient pas d'assurance. L'immeuble est une perte totale. Deux départs seront annulés du lundi au jeudi sur la ligne de train de banlieue de Saint-Jérôme pendant plus de 3 semaines en juin. Par voie de communiqué, le réseau de transport métropolitain devenu EXO la semaine dernière a annoncé que le dernier départ en soirée en direction de Montréal ainsi que celui en direction de Saint-Jérôme seront annulés 4 jours par semaine du 4 au 28 juin en raison de travaux d'entretien des voies ferrées effectués par le Canadien Pacifique. Triste histoire, la victime venait de déposer sa fille à l'école. L'homme abattu à Roxborough devait fêter ses 46 ans hier. Le propriétaire d'un logement qui a été abattu dans son sous-sol dans l'arrondissement Roxborough samedi venait tout juste de déposer sa fille à l'école la veille de son anniversaire lorsqu'il a été tué. La jeune fille a attendu son père en vain après ses cours de fin de semaine. Alors, la victime s'appelle Constantinos Tuntas. Monsieur Tuntas a été retrouvé sans vie vers 9h50 samedi dans le sous-sol d'un immeuble à logement de la 1ère avenue de l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough. Hier, le service de police de la Ville de Montréal a confirmé que le témoin important de 33 ans arrêté sur les lieux allait comparaître aujourd'hui pour répondre d'une accusation de meurtre. Selon nos informations, il s'agirait d'un locataire de l'endroit. Costa, le surnom de la victime, avait appelé un locataire parce qu'il devait aller réparer un mur. Il entretenait toujours bien l'endroit, ajoute M. Tuntas. Alors, ici, Konstantinos Tuntas, ce n'est pas le nom de la victime, puisque c'est le cousin de la victime. Toutes mes excuses. Mécanicien en aéronautique. Petite musique, Jean-Sébastien. Oui, c'est bien. C'est ça, je suis un petit peu mêlée, là, parce que je pensais que le nom de la victime n'était pas celui que j'ai nommé, mais c'est bien celui que j'ai nommé. Mécanicien en aéronautique, Konstantinos Tuntas devait célébrer son 46e anniversaire de naissance hier au cours d'une fête prévue par ses proches. Un septième producteur de cannabis, les serres Stéphane Bertrand de Mirabel, s'est ajouté à la courte liste des Québécois autorisés à faire pousser du pot par Santé Canada. Les serres Bertrand était l'un des plus grands cultivateurs de tomates au Québec. Il annonçait en décembre son projet de se convertir en producteur de pot avec la création d'une co-entreprise vers Mirabel avec Canopy Growth, un des plus grands joueurs de l'industrie du cannabis. La compagnie ontarienne compte maintenant deux sites au Québec, soit celui de Mirabel et un autre à Saint-Lupien, près de Drummondville, en plus de 8 autres dans le reste du pays. On compte maintenant 105 producteurs de cannabis au Canada. Les parents d'Ariel Kouakou, disparu depuis le 12 mars, vont lancer officiellement ce matin une pétition demandant à l'Assemblée nationale la création d'une unité d'intervention mixte spécialisée dans le cas d'enlèvement. Ils seront accompagnés de leur députée locale, Rita DeSantis. On veut vraiment attirer l'attention sur notre cause afin qu'elle puisse prendre de l'ampleur, indique le père d'Ariel, Frédéric Kouakou. Les parents du garçon de 10 ans sont convaincus qu'il a été enlevé. Disant avoir constaté des irrégularités durant la procédure de signalement le jour de sa disparition, il souhaite que le gouvernement crée une escouade pour intervenir plus promptement en cas d'enlèvement. L'accès à un bar lui est interdit en raison de ses opinions politiques. Un intellectuel connu pour ses prises de position pro-laïcité quittait un bar du quartier latin à Montréal vendredi quand deux serveurs l'auraient accosté pour lui signaler de ne plus jamais revenir. Jérôme Blanchet-Gravel raconte avoir été attablé une bonne partie de la soirée de vendredi avec l'un de ses amis à la mer à boire sur la rue Saint-Denis. On a pris 2-3 bières tranquilles, il n'y a pas eu de problème jusqu'à ce qu'on aille payer l'addition. Se souvient l'auteur de La face cachée du multiculturalisme. Un premier membre du personnel est alors entré en contact avec son ami, puis un autre employé a directement interpellé M. Blanchet-Gravel pour lui dire de ne plus jamais revenir ici. C'est un événement déplorable, ça concerne un seul employé et non tout le bar. Il a été rencontré et sanctionné, assure le propriétaire de l'endroit, Grégoire Roussel, qui rappelle que sa microbrasserie est ouverte à tous, peu importe leur opinion politique. Interdire l'entrée d'un lieu public à une personne à cause de ses convictions politiques est illégal aux yeux de la Charte des droits et libertés de la personne. La gratuité pour la moitié de la classe moyenne, une promesse surprise du PQ pour le poste secondaire. À la surprise générale, le Parti québécois a pris un nouvel engagement hier en promettant l'abolition des frais de scolarité au cégep et à l'université pour les enfants de ménage qui se trouvent sous le revenu médian. Notre objectif, c'est que dans le premier mandat, on aille jusqu'au milieu de la classe moyenne. C'est-à-dire que pour tous les enfants de milieu modeste, classe moyenne inférieure et jusqu'au milieu de la classe moyenne, les droits de scolarité soient à zéro, a affirmé le chef péquiste Jean-François Lisée à la clôture du Conseil national de sa formation politique à Drummondville.
Comme une voix dans l'intercom qui me dit simplement de laisser filer. Comme le début d'un mauvais sitcom où le générique à la gomme me dit simplement qu'il faut laisser filer. Comment il faut vivre aujourd'hui? Comment se compare toute une vie? Comment il faut vivre aujourd'hui avec ces cons qui nous poursuivent? J'entendais et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement come to my world. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler? Come to my world. Des pommes, qu'il nous manquait des chromosomes, qu'on devait forcément sans arrêt se copier. Comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme. Sortir du nid pour pouvoir se laisser voler. Autour de moi j'entendais, et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement come to my world. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler? Come to my world.
C'est le titre de cette nouveauté de l'artiste Soul.
Les journaux régionaux, la TUC prête pour 2 jours sans eau. Elle est plutôt prête. Alors, dans moins de 24 heures, plus de 5 000 résidences seront privées d'eau dans le secteur urbain de la TUC en raison des travaux réalisés sur le tuyau principal d'alimentation. La Ville assure que tout est en place pour que l'opération se déroule bien. La Ville est prête. On a un comité qui travaille depuis plusieurs semaines sur ce dossier-là. On a regardé tous les aspects. Au niveau de la population en général, le message est très bien passé. On a fait énormément de sensibilisation. Les gens ont été informés et ils vont se prendre en charge pour un maximum de 48 heures. Je pense que les gens l'acceptent bien, a lancé d'entrée de jeu le maire de la TUC, Pierre-David Tremblay. Si c'était une fuite et qu'on n'avait rien de prévu, ce serait différent. Mais là, ça fait des semaines qu'on le dit et qu'on prépare ça, a-t-il ajouté. L'alimentation d'eau potable sera interrompue dans la nuit de lundi à mardi. On prévoit que le service sera de retour en soirée mercredi. Les feux extérieurs seront totalement interdits durant ces 2 jours. Des mesures exceptionnelles ont d'ailleurs été mises en place par le service de sécurité incendie. Il y aura une dizaine de pompiers de garde en caserne durant les 2 jours et un plan opérationnel a été préparé afin d'alimenter les autopompes en cas d'incendie. Quant aux commerçants, ils ont dû user d'imagination pour en arriver à rester ouverts, même si dans certains cas, la fermeture était immanquable. Au départ, il y a 3 ou 4 semaines, c'était l'apocalypse. Tout le monde voyait ça comme un drame et tout le monde ou presque voulait fermer, a commenté Karine Rochette, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Mauricie. On a cherché des façons de faciliter la vie de ces gens-là, on a discuté avec la ville, on a demandé des toilettes plus près de certains commerçants, entre autres. On a aussi proposé de louer des réservoirs d'eau à peu de frais, a-t-elle ajouté. La Chambre voulait également que les centaines de travailleurs qui seront à la TUC durant ces jours-là aient un minimum de services. On a apporté des solutions, on ne voulait pas que les travailleurs partent de la TUC en se disant qu'on ne sait pas recevoir, a ajouté Karine Rochette. La Chambre a aussi fait savoir à certains de ses membres qu'il pourrait être possible, selon les contrats, d'avoir des compensations pour les pertes. Des entreprises ont même utilisé la situation pour faire la promotion de leurs services. Chez Papillon Lune, qui offre des chalets à une 30 minutes du centre-ville de la TUC, on a fait un spécial du 29 au 31 mai en prenant soin de montrer qu'il s'agissait des dates de la coupure d'eau. La ville demande aux gens de se préparer à cet événement en faisant des réserves d'eau suffisantes avant l'interruption en remplissant le bain et des contenants pour l'eau potable. On demande aussi aux citoyens de remplir leur piscine afin de créer une réserve en cas d'incendie et de fermer l'alimentation électrique du chauffe-eau pour éviter les risques d'incendie. Il sera possible d'aller chercher de l'eau potable fournie par la municipalité près de l'école Champagnat à la caserne incendie ou à la halte routière du boulevard du Charme. Plus de 125 toilettes chimiques seront mises à la disposition des citoyens un peu partout dans le territoire urbain. Après les travaux, il y aura un avis d'ébullition préventif qui sera en vigueur par mesure de sécurité pour tout le milieu urbain de la municipalité. Donc, il faudra faire bouillir l'eau avant de la consommer jusqu'à ce que l'avis d'ébullition soit levé. Le CIUS MCQ a également fait savoir qu'il était prêt à toute éventualité. Un plan de contingence a été mis en place par les dirigeants. Pour les besoins de la cause, le CIUS MCQ va avoir recours à un puits et 2 camions-citernes pour ses besoins d'eau potable. Rappelons que le groupe de médecine de famille, GMF, le comptoir d'accès à l'information des archives et le service sans rendez-vous de la radiologie seront fermés les 29 et 30 mai. On demande aussi aux citoyens de limiter les visites aux centres de santé, d'utiliser la ligne 811 Info Santé en cas de besoin et de restreindre les visites aux usagers et aux résidents. La circulation sera également réduite. Il sera possible de circuler uniquement par l'entrée principale de l'installation où il y aura présence d'un gardien de sécurité en tout temps pour assurer un contrôle. Des informations destinées à la population sont également disponibles sur le site web du CIUS MCQ. Il y a entre autres des conseils pour s'assurer que les gens consomment de l'eau potable. Dans la tribune, Simon Roberge, de près ou de loin, le cancer touche tout le monde. C'est particulièrement vrai pour un groupe de collègues de la pharmacie Jean Coutu-Lapointe. Monjo est gagné à Sherbrooke, qui s'est fait raser les cheveux dimanche au carrefour de l'Estrie dans le cadre du défi. Tête rasée de Leucan. Le défi a amassé 56 342,71 $. Patricia Tessier-Frappier, Sylvie Langteau, Étienne Monger, Alexandre Aubert et Louise Breton ont déposé un chèque de 6 500 $ pour venir en aide aux enfants atteints du cancer. C'est que le cancer n'a pas épargné l'entourage de ses 5 collègues. On a perdu une collègue il y a 2 ans. Il y en a une autre qui est atteinte du cancer, souligne Patricia Tessier-Frappier. Au mois de novembre, j'ai aussi appris que mon petit-fils de 4 ans a la leucémie. C'est pour ça que je suis ici. Ça touche tout le monde et l'union fait la force. Une bonne amie de la famille est morte il y a 1 mois, mentionne pour sa part Étienne Monger. Sylvie Langteau et Alexandre Aubert ont également des proches qui ont dû combattre la maladie. Ils n'ont donc pas hésité à venir en groupe se faire couper les cheveux et remettre une imposante somme à l'organisme. Quelques 70 personnes se sont fait raser les cheveux dimanche. Léa Maude Roy, porte-parole du défi, est bien placée pour connaître l'importance d'amasser des fonds pour la lutte contre le cancer Elle a été atteinte d'un cancer, un lymphome de Hodgkin, il y a 3 ans, lorsqu'elle avait 17 ans. Elle a donc bénéficié des services de Leucan. La chronique de Mylène Moisan dans Le Soleil, au moins j'aurais sauvé des vies. Elle a toujours pensé qu'elle allait être capable de s'en sortir toute seule. Lucie Roy parle de sa fille. Andréanne Leblanc a complété en 2011 sa technique ambulancière, un DEC en soins préhospitaliers d'urgence au collège à Hansic. Elle a choisi ce métier parce qu'elle voulait aider les gens. Elle voulait être sur le terrain. Elle a commencé à travailler dans le bas du fleuve. Ses premières impressions étaient bonnes. Elle aimait ça. Elle a ensuite fait le saut en Gaspésie, du côté de Pointe-à-la-Croix, où elle a obtenu un poste régulier. 7 jours de travail, de garde, 24 heures sur 24, 7 jours de congé, et ainsi de suite. Mais Pointe-à-la-Croix, elle trouvait ça très tranquille, trop. Andréanne voulait plus d'action. Elle a fait le saut dans la capitale pour la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, CTAQ. Elle était contente, elle était vraiment bien, elle avait de bonnes conditions de travail et de l'action. La vie étant ce qu'elle est, parfois, sa tendre moitié n'arrivait pas à se faire à Québec. Elle s'ennuyait de chez elle. De Rimouski, Andréanne s'est fait embaucher comme ambulancière à Rimouski sur la liste d'appels et elle a continué à travailler à Québec, à faire la navette entre les deux villes, à sauver des vies dans les deux. Elle travaillait pour Cambie à Rimouski, pour la CTAQ à Québec. Les services ambulanciers au Québec sont assurés par des organisations parfois privées, parfois coopératives, qui disposent d'une certaine indépendance et qui, incidemment, peuvent offrir des conditions de travail différentes de l'une à l'autre. C'est une forme de PPP, les fameux partenariats publics-privés. Le soir du 29 janvier 2017, elle travaillait à Québec quand un appel pas comme les autres est entré. Bain de sang à la Grande Mosquée. Andréanne a fait son boulot. Elle a transporté un blessé par balle, il y en avait 5 ou 6. Elle l'a transporté à l'hôpital, et on lui a demandé de rester en alerte avec son collègue au cas où il y en aurait d'autres. Le meurtrier était en fuite. Lucie a envoyé un texto à sa fille. « Est-ce que tu es intervenue? » « Oui. » Elle n'en a pas dit plus. Après, elle m'a dit « Tu as été la seule ce soir-là à avoir pensé à moi. » Andréanne n'a jamais vraiment reparlé de cette nuit-là à sa mère ni à son frère. Lucie a su, tout au plus, que sa fille avait assisté à un « debriefing » entre guillemets, d'une heure, deux, ou 3 jours après la tuerie. Ce n'était pas le genre à parler de ce qu'elle vivait. Il y a des collègues qui ont dit qu'elle n'était plus pareille après ça. Elle a continué à travailler, à sauver des vies. Je suis allée la voir en août. Elle était hyperactive et elle parlait beaucoup. J'y suis retournée en septembre, je la trouvais en hypervigilance, désorganisée, irritable. Andréanne avait peur de recevoir des appels. Elle avait toutes sortes de craintes, comme les orignaux. Elle faisait de l'insomnie. Elle consommait des cafés boostés, des boissons alcoolisées. Je me disais, elle ne pourra pas durer comme ça. Si son cerveau avait été un tableau de bord, tous les signaux d'alerte étaient au rouge. C'est le check engine qui s'allume. En octobre, Andréanne a craqué. C'était le 3 octobre. C'était la fin de semaine. Pour la première fois, elle a exprimé des idées suicidaires. Elle a quitté le service. Elle était en pleine crise. Ses collègues de travail, ses collègues de Québec l'ont amenée consulter presque de force. Elle ne se voyait pas aller. Elle a demandé 6 jours de congé. On les lui a accordés. Elle n'est jamais revenue. Elle a quitté son travail, son couple a éclaté. Elle a décidé de revenir chez elle aux îles de la Madeleine. Vincent ne reconnaissait plus sa sœur. Elle a fait une croix sur tout. Elle sortait tout le temps, elle consommait beaucoup. C'était le début de la spirale, de la chute. Ça spinait constamment dans sa tête. Elle ne pouvait juste pas s'arrêter. Elle pouvait se lever en pleine nuit et partir. Elle se refermait, on ne comprenait pas. Quand on voulait lui en parler, elle retournait ça vers nous autres. Elle disait que c'était nous le problème. Le sentiment d'impuissance, c'était dur de la voir. Vincent est tombé par hasard sur une émission d'entrée principale. Un pompier parlait des risques de son métier sur la santé mentale, le syndrome du choc post-traumatique. Il a reconnu sa sœur. J'écoutais ça et je me disais, c'est tellement la même chose, ça décrivait si bien. Mais ça n'arrangeait rien. Alors, c'est exceptionnel, mais le texte vaut la peine d'être lu jusqu'à la fin. Au retour de la chanson, je vous lis la suite de la chronique de Mylène Moisan. Restez avec nous.
Premier extrait de son album Gumbo, c'était Dans les grands chemins, Zachary Richard.
Alors, je poursuis la lecture de la chronique de Mylène Moisan à propos de l'histoire d'Andréane Leblanc, ambulancière, qui est intervenue sur les lieux de la tuerie de la Grande Mosquée le soir du 29 janvier. Alors, son frère, donc Vincent, est tombé par hasard sur une émission d'entrée principale. Un pompier parlait des risques de son métier sur la santé mentale, le syndrome du choc post-traumatique. Il a reconnu sa sœur. J'écoutais ça et je me disais, c'est tellement la même chose, ça décrivait si bien. Mais ça n'arrangeait rien. Dans la nuit du 7 au 8 décembre, Andréane a été arrêtée par les policiers et envoyée de force en psychiatrie. Elle a eu un P38, une ordonnance de la cour pour l'obliger à y rester 48 heures. Elle s'est sentie humiliée. Elle voulait juste qu'on la laisse tranquille. Ils ont dû lui faire accepter d'être là. Et ils ont réussi. Elle est restée là 8 jours sur une base volontaire. Pour la première fois, elle acceptait de mettre un genou par terre. L'année 2018 commençait bien et elle était venue s'installer chez sa mère. Elle était très calme, elle ne consommait plus, elle avait tout arrêté. Mais il y avait quelque chose de brisé chez elle. Je devais faire le deuil de ma sœur d'avant. Elle était fragilisée. Le vent semblait vouloir enfin tourner. Elle avait recommencé à s'entraîner, elle s'était trouvé un travail, elle était appréciée. Il y avait une petite lueur d'espoir. Elle se disait même qu'elle pourrait retourner comme ambulancière l'été. Elle ne verra pas l'été. Le 12 mars, elle a reçu 2 lettres dans le courrier des mauvaises nouvelles qui la replongeaient dans l'enfer qu'elle avait traversé. Lucie avait l'espoir qu'elle refasse sa vie petit à petit, mais ça a ravivé sa peine, sa détresse. Elle est partie le lendemain, on ne l'a plus revue. Andréane a été retrouvée sans vie le 15 mars dans son uniforme. Elle a laissé 5 lettres pour ses proches, sans vraiment expliquer pourquoi elle a fait ça, ce qui l'a conduit dans une telle détresse. Dans l'une d'elles, elle écrit « Au moins, j'ai sauvé des vies ». Elle avait 31 ans. Lucie ne peut s'empêcher de penser que l'aide est venue trop peu trop tard, de se demander si l'histoire aurait été différente si sa fille avait assisté au premier désamorçage le soir du 29 janvier. Elle ne sait pas s'il y a un autre événement qui aurait pu faire basculer sa fille. Il faudrait qu'il y ait une plus grande sensibilisation auprès des ambulanciers sur l'aide qui est disponible pour eux, et aussi pour qu'ils acceptent cette aide. Il y a une prise de conscience. Les paramédics sont avant tout des êtres humains. Il y a un message clair quand elle a mis son uniforme. Elle revendiquait beaucoup ça, sauver des vies, et là, c'était sauver ses collègues. André Tremblay-Roy n'est pas prêt d'oublier cette intervention d'il y a environ un mois. Un appel en pleine nuit. Il est basé à Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie. C'est la nuit, il est autour de 2 heures du matin, je dois intuber un homme, mais il n'y a pas de lumière dans le logement. C'est le policier à côté qui m'éclaire avec sa lampe de poche. Il y a une femme qui crie et un enfant d'environ 2 ans qui est là. Il ne comprend pas ce qui se passe. On est loin d'une salle d'urgence. André est ambulancier depuis 10 ans. Il a tout vu. Ça fait partie de notre métier de voir des bouts de chair, des bouts d'os. On le sait quand on choisit de faire ce travail-là, mais ce n'est quand même pas normal pour un humain d'être exposé à ça. À toutes les images, ça reste, c'est sûr. Il y a les flashbacks qu'il doit apprendre à gérer. Aussi, cet appel qui est entré quand il soupait avec sa femme et sa fille, priorité 3, sur la rue de la mer. L'adresse de mes beaux-parents. André a aussi travaillé à Québec. Il sait de quel bois un ambulancier doit se chauffer. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur la charge de travail, mais c'est un travail pernicieux. Comme moi aussi, je suis de garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je peux être appelé n'importe quand. Quand on s'est parlé, il venait de travailler tellement d'heures de suite que la CSST avait imposé quelques heures de repos. C'est certain qu'il y a plein d'éléments qui nous troublent, certaines images, la misère humaine. C'est différent pour chacun. Et si jamais on sent qu'on a besoin d'aide, ce n'est pas évident. On est connu aux urgences et on se demande ce qu'ils vont dire de nous. On se dit on est fait fort. On est au-dessus de tout ça. Pas toujours. Il a connu Andréane Leblanc avant qu'elle ne parte travailler pour Québec. Elle était très déterminée, un peu idéaliste. Elle voulait que des choses soient améliorées, qu'on soit mieux formé pour certaines interventions. Elle avait d'ailleurs suivi des formations de plus pour repartir un cœur en arrêt, par exemple. Elle adorait son métier. Elle ne donnait pas sa place et elle trouvait que Pointe-à-la-Croix, ça ne bougeait pas assez. Il y a eu quelques échanges avec elle après la tuerie de la mosquée. Je lui ai envoyé quelques textos les mois après et quand je voulais entrer en contact, je la sentais plus fermée. J'écrivais « Comment ça va ?» Elle répondait juste « Ça va, correct. » J'ai senti qu'elle ne voulait pas en parler. Il a appris sa mort sur Facebook. Vice-président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du pré-hospitalier du Québec, André veut sonner l'alarme. On investit beaucoup d'efforts pour faire attention aux musculo-squelettiques, mais il faut aussi s'occuper de la boîte à fusibles. Il faut absolument briser les préjugés. Plus on consulte tôt, plus le taux de succès est bon, plus la guérison est possible, moins il y a de conséquences et de séquelles. Alors, je reprends la phrase. Plus on consulte tôt, plus le taux succès est bon, plus la guérison est possible, moins il y a de conséquences et de séquelles. Depuis environ 4 ans, André remarque une augmentation de la détresse chez les ambulanciers. Ils sont 1 000 000 au Québec. La Commission des lésions professionnelles ne reconnaît pas le post-traumatique par accumulation. Il serait peut-être temps qu'il y ait des études sur l'impact de ça. Le métier a changé à vitesse grand V. Dans les années 80, c'était 20 $ par appel. Il ne faisait pas tout ce qu'on fait. André n'est pas le seul à s'inquiéter de la santé mentale des ambulanciers. Le constat revient dans l'actualité depuis quelques années, montrant entre autres du doigt une charge de travail plus grande, des horaires de travail exigeants, avec de l'adrénaline en quantité. Il y a environ un mois, André a lancé l'idée d'établir un système de sentinelle chez les ambulanciers, de partager, faute de pouvoir uniformiser les protocoles de prévention des problèmes de santé mentale. Il faut prendre les devants. Il faut diriger les personnes vers les ressources, au moins les en informer. Il faut débarrer des portes qui ne sont pas facilement ouvertes, par orgueil, par fierté peut-être. Les lumières jaunes. Ce soir-là, le 29 janvier 2017, Des appels entrent au 911 entre un peu 20 heures, un peu avant 20 heures. Les ambulanciers reçoivent un code 27, plusieurs blessés par balle. Un homme armé a fait irruption à la Grande Mosquée de Québec. Les ambulances sont dirigées vers les lieux du crime, toutes sirènes hurlantes. Chaque seconde peut faire une différence entre la vie et la mort. Quand elles arrivent, il y a au moins 5 personnes qui doivent être transportées d'urgence à l'hôpital. C'est l'horreur, en direct. Directeur adjoint aux opérations des ambulanciers de Québec à la CTAQ, Martin Berube, explique que des mesures ont été mises en place pour faire ventiler ceux qui étaient sur les lieux. L'équipe de direction est entrée pendant la soirée pour faire un premier désamorçage pour permettre aux ambulanciers de ventiler. Ils ont raconté ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, comment ils ont réagi. Ça nous a permis de cibler des gens qui auraient besoin du plus d'attention dans les prochains jours. Il y a eu un autre désamorçage, 2 ou 3 jours plus tard. Tout le monde était invité, presque tout le monde est venu. Il y avait des psychologues. Tous les signaux d'alarme ont été relatés aux paramédics et aux confrères pour qu'ils soient plus attentifs, pour qu'ils fassent, au besoin, une délation positive aux supérieurs. Chaque signal d'alarme est une lumière jaune. On observe qu'ils sont plus nerveux. On observe s'ils sont plus nerveux, plus stressés, plus irritables. On peut voir aussi une perte de poids, une plus grande fatigue, de l'insomnie, moins d'entrain. On peut remarquer que la personne participe moins aux activités sociales. On offre un suivi à ceux qui pourraient en avoir besoin. Ils sont pris en charge s'ils le souhaitent. D'où l'importance d'être conscient de leurs problèmes, de l'accepter. À l'heure actuelle, chaque entreprise de transport ambulancier au Québec, qu'elle soit privée ou coopérative, est responsable du soutien psychologique offert à ses employés. Une 60aine d'entreprises, une 60aine de protocoles à géométrie variable selon les ressources. Le temps est peut-être venu de s'assurer d'un minimum. Est-ce qu'il faut un protocole national? Ça pourrait être une solution. Mais il faut aussi comprendre que c'est une responsabilisation des communautés. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait une mise en commun des idées, de ce qui se fait ailleurs. L'objectif, c'est que personne ne passe entre les mailles du filet. Veux, veux pas, les suicides, ça conscientise. Ça te dit que ça peut arriver à n'importe qui. Je pense que toute la question des préjugés, ça a beaucoup changé. Les ressources sont là. L'accueil est là. Ceux qui le font disent « j'aurais dû faire ça avant. J'aurais donc dû. » Ceux qui en sortent grandis. Ceux qui pensent régler ça par eux-mêmes, ce n'est pas la chose à faire. Et même les super-héros ont parfois besoin de reprendre leur souffle. Il faut faire tomber le mythe de l'orgueil, de l'uniforme. L'uniforme ne protège pas de tout. En dessous, c'est un humain. Alors c'était la chronique de Mylène Moisan intitulée « Au moins, j'aurai sauvé des vies ». Et comme le temps file, on va faire une espèce de mixte entre la chronique culturelle et sujet libre. Alors allons-y en chanson, Jean-Sébastien, puis on vous retrouve tout de suite après.
Après des milles sous la pluie, et après des jours sous la nuit, avant de ne plus voir le nord. Après autant d'aujourd'hui, et après tant de nuages gris, et avant que mon temps ne prenne le bord. Je prends l'ascenseur qui va plus près du soleil, près de la chaleur aussi. Plus rien n'est pareil depuis que je vois ma vie. Après des jours sous la nuit, avant de ne plus voir le nord. Après autant d'aujourd'hui, après tant de nuages gris, avant que mon temps prenne le bord.
La formation 7 jours en mai et la pièce Vue d'ici.
Devoir patrimoine, la maison natale de Jacques Ferron en vente. C'est un article de Jean-François Nadeau. Quelle belle maison! Maison natale donc de l'illustre famille Ferron est en vente à Louisville. Peintre, romancier, dramaturge, figure de proue de la culture québécoise, Jacques, Marcel et Madeleine y ont grandi dans l'entre-deux-guerres. Réal Maurice Beauregard et sa compagne l'avaient racheté en 1980 pour en faire un gîte touristique. Près de 40 ans plus tard, les propriétaires ont décidé de céder la maison pour partir s'installer à Montréal. Le prix de vente de cette vaste et imposante demeure, gorgée d'histoire, a été fixé à 384 000 par un courtier immobilier. Située à Louisville, à un jet de pierre de la rivière du Loup, à tout juste quelques kilomètres de Trois-Rivières, cette vaste maison bourgeoise de 7 chambres, rehaussée de lambris, date de l'ère victorienne. Construite en 1898 dans le style composite néo-Queen Anne, elle est d'abord édifiée pour le compte du docteur Louis-Léandre Hamelin, futur maire du lieu, notabilité locale. La demeure est rachetée en 1919 par Joseph-Alphonse Ferron, notaire, bientôt père d'un clan dont l'immense influence sur la vie culturelle du Québec demeure à ce jour considérable. Après ses études à l'Université Laval de Montréal, le notaire s'est installé dans cette localité du comté de Masquinongé pour établir ses affaires. En 1920, il épouse Adrienne Caron. De leur union va naître en 1921, dans cette maison même, un premier fils, Jacques. Avant même son décès prématuré en 1985, il est déjà considéré comme un des très grands écrivains de son pays. Auteur de La Mélanchier, Du ciel de Québec, d'un nombre impressionnant de lettres aux journaux, et d'une immense correspondance en voie d'être entièrement publiée, Jacques Ferron charpente une bonne partie de son œuvre sur la base de ses souvenirs de Louisville. Son amour pour la nature, sa passion de nommer les choses et d'apprécier la vie des gens humbles dans toute la complexité de leurs histoires, Jacques Ferron va les affiner dans ce territoire de son enfance, ce dont il ne se cachera jamais. Il connaît le moindre méandre de la rivière du Loup qu'il va parcourir en canot. Il regarde les vaches d'un cultivateur voisin, fasciné à l'idée qu'on puisse savoir le nom de chacune. Il observe tout de la vie du comté de Masquinongé, non pas dans un repli régionaliste, mais dans une ouverture du particulier vers l'universel. Jusque dans ses ultimes projets d'écriture, Jacques Ferron reviendra à ses souvenirs de Louisville. Ainsi, lorsqu'il entreprend de considérer le traitement de la phonie dans un livre qui lui donne beaucoup de mal, il en appelle à cette capitale de sa conscience, appuyée sur une riche culture littéraire. Il dit « À Louisville, on parlait des échappés de Beauport. » On disait aussi qu'il est bon pour Mastaille, pour Saint-Michel-Archange, nommé d'après Pie IX, cardinal de Mastaille ou Mastaille, M-A-S-T-A-I, tréma. Mastaille était un lieu d'internement de grand prestige, pas comme le Bedlam des formations phonétiques de Bethléem de Shakespeare. En entrevue, Jacques Ferron a expliqué plus d'une fois ce que son œuvre doit à l'imprégnation de ce pays des commencements. Il l'a fait parfois avec les mots rugueux du temps, toujours sensible au sort des petits et des sans-grades d'où ils viennent. À Louisville, il y avait une structure manichéenne, une structure d'ensemble, le bas et le haut. Le bien et le mal, le grand village des notables et puis surtout le petit village des prolétaires. N'oubliez pas que la Chine a été le petit village de Montréal. Le petit village, sans doute d'origine indienne, n'avait comme rue que des sentiers. J'ai vu la même chose en 1946 au village Micmac du Nouveau-Brunswick, réserve indienne où travaillaient des Chinois et des Négresses. Micmac et Fredericton, petit village et grand village, Sydney et Montréal, petit village et grand village. Négresse de Sydney et Canadien français, deux petits villages. Ce sont les écrits de Jacques Ferron. Son père, le notaire Ferron, aura son bureau dans la demeure familiale jusqu'à sa mort. Il se suicidera en 1947. Dans Le Devoir, dans un courrier des lecteurs, Jacques soutiendra qu'un notable comme son père fait figure d'un misérable qui est toujours contre les siens. La maison d'une mère, toute de briques, coiffée d'un imposant lanternon vert, l'ancienne maison des Ferrons en vente depuis quelques semaines, est classée pour sa valeur patrimoniale depuis 2012 seulement. Cette vaste maison d'inspiration victorienne est flanquée d'anciennes écuries aux portes imposantes, un univers de chevaux qui rejaillit dans l'œuvre de l'écrivain qui s'est enlevé la vie en 1985. Le notaire était passionné par ces bêtes. Son fils le sera aussi. « Nous avons rénové les écuries en arrivant », explique M. Beauregard au Devoir. « Les grandes portes ont été refaites selon le modèle de l'époque. Toute la maison a été patiemment rénovée. Nous avons fermé le gîte le 31 décembre 2017, en même temps que la presse cessait de publier. Pour nous, c'est la fin d'une époque. C'est malheureux, mais il faut parfois changer. On s'est abonné au Devoir et on déménage à Montréal. » Dans son œuvre, Jacques Ferrons parlera beaucoup de ces lieux de son enfance, explique Marcel Holscan, son biographe. Il fut très marqué par la mort prématurée de sa mère survenue dans cette maison le 5 mars 1931, après un séjour au sanatorium. Joint par le Devoir à l'Université d'Ottawa, le professeur Holscan explique que l'image du corps de la jeune mère descendue par le grand escalier de la maison fit une très forte impression sur les enfants Ferrons, en particulier sur Jacques. Dans leur correspondance, les Ferrons parlent souvent du 5 mars comme d'une journée maudite où il vaut mieux ne rien faire, ne pas bouger, rester chez soi, par crainte que le pire ne survienne de nouveau. Après la mort de sa femme, le notaire Ferron va se remarier avec Ida Caron. Lorsque le notaire meurt en 1947, Jacques et Madeleine sont les deux seuls des cinq enfants à être encore à la maison. C'est la succession qui va s'occuper de vendre la maison. Tout cela n'est pas très clair, explique Marcel Holscan. La maison a par la suite appartenu à un médecin et organisateur libéral, Avelin Dalcourt, qui accueillera chez lui plusieurs personnalités politiques importantes, dont René Lévesque, Jean Lesage et le gouverneur général Georges Vanier. Cette maison comprend sept chambres et de vastes espaces qui, cependant, ne correspondent pas, au chapitre de la décoration du moins, à l'intérieur feutré qu'ont connu les Ferrons. Ce décor plus ostentatoire qu'il a créé depuis qu'il a pris possession des lieux, Réal Maurice Beauregard s'inquiète un peu de le voir désormais disparaître. Musique critique, Ray LaMontagne, Part of the Light. C'est Émilie Côté dans la presse qui critique ce disque. Elle lui accorde 4 étoiles sur 5. L'éminence folk Ray LaMontagne, qui connaît un grand succès au Québec depuis un spectacle au Festival de jazz en 2005, a sorti son 7e album, Part of the Light. Une fois de plus, impossible de ne pas être remué à l'écoute de la voix inspirée et des poignantes mélodies du musicien né dans le New Hampshire et qui a des racines maternelles canadiennes-françaises. Part of the Light porte bien son nom. L'album regorge de moments lumineux, presque religieux. Après avoir travaillé avec Dan Auerbach des Black Keys et Jim James de My Morning Jacket, La Montagne a écrit, enregistré et réalisé les chansons de Part of the Light seul dans son studio à la maison. Cette intimité s'entend. Il y a une douceur dans le son, mais aussi beaucoup d'espace et de respiration. C'est beau à pleurer sur les ballades It Always Been You et Goodbye Blue Sky. La montagne y va encore de ses subtiles touches floydesques ici et là. Alors, on parle ici de touches floydesques. Vous avez compris qu'on parle de Pink Floyd. Plus rock, As Black As Blood Is Blue, marque la moitié de l'album. Such a Simple Thing, un bijou de pedal steel. Ray La Montagne ne se réinvente pas et reste dans sa zone de confort, mais les 10 chansons de Part of the Light frisent la perfection. Voilà, c'est tout pour le quotidien des quotidiens du 28 mai 2018. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Dans un petit moment, j'amorce l'animation de l'Hyperactualité. C'est la dernière semaine d'Hyperactualité pour cette saison. Alors, restez avec nous. Puis, merci beaucoup à Jean-Sébastien Laliberté, comme d'habitude, fidèle au poste, les lundis, mardis, mercredis, pour la mise en onde et les choix musicaux. Merci d'avoir été là et à très bientôt, dans quelques minutes, j'espère bien.